L'éducation populaire au centre du projet politique de l'ESS. L'Institut Montparnasse est un think and learn tank et une de nos missions est de réfléchir à l'avenir du mutualisme. Nous avons eu l'occasion d'accueillir une grande diversité d'invités sur nos podcasts. Parmi ceux-ci, des mutualistes bien sûr, mais aussi des grands témoins de l'économie sociale et solidaire, des penseurs, des universitaires, des hommes politiques, de France et à l'international. L'ESS se veut un terrain d'innovation face aux problématiques sociales, un espace de débat autour des questions de société. Et dans cet engagement, nous allons chercher des acteurs de la société civile, des territoires, mais aussi des professionnels afin de relayer les bonnes pratiques et les idées inspirantes. C'est dans le contexte d'un cycle de conférences autour de l'éducation populaire que l'Institut Montparnasse donne aujourd'hui la parole à Sandrine Rouspabé, qui est intervenue pour une matinée sur l'éducation populaire au centre du projet politique de l'ESS. Sandrine Rouspabé, vous êtes enseignante-chercheuse en économie à l'Université de Rennes. Je suis Florian Béton et vous écoutez le podcast « Bâtissons des futurs solidaires » de l'Institut Montparnasse. Sandrine Rouspabé, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter ?
Oui, comme vous l'avez dit, je suis enseignante-chercheuse à l'Université de Rennes. Donc plus exactement, je suis enseignante à l'IUT de Rennes dans une formation d'animateur et d'animatrice socio-culturelle, ce qui fait lien, je pense, avec le sujet d'aujourd'hui autour de l'éducation populaire. Donc voilà, j'enseigne l'ESS dans cette formation. Et je suis également chercheuse. Ça fait des années que je travaille sur des sujets liés à l'économie sociale et solidaire, et plus particulièrement donc dans des projets de recherche participative. Voilà, je considère que le rôle du chercheur est de chercher avec des acteurs de la société civile. Et donc je m'intéresse, je regarde dans les dynamiques d'ESS ce qui peut faire éducation populaire.
Très bien. Alors, au vu de la conférence de ce matin, quel lien historique faites-vous entre ESS et éducation populaire ?
Alors les liens, ils naissent au début, aux prémices aussi de l'économie sociale, au moment... juste après la révolution, au moment où naissent dans le milieu ouvrier tout un tas d'initiatives qu'on rassemblera après sous la nomination d'associationnisme ouvrier. Et donc l'idée, c'est une organisation, alors très basée sur la solidarité aussi des métiers, des organisations qui se construisent en intégrant à la fois donc les volets économiques sous forme de coopératives, de production, mais en même temps donc des volets de solidarité, de protection des risques, d'entraide, et puis la dimension culture, comment s'éduquer ensemble aussi, donc la dimension culture et éducative qui se mêle dans ce mouvement associationnisme ouvrier à la question économique. Il y a quelques exemples qui sont assez inspirants, de dire comment est-ce qu'on défend à la fois ces conditions matérielles d'existence en alliant cette dimension politique et éducative. Je pense par exemple à la Bellevilloise, je pense qu'il y a un exemple assez emblématique, fin 18e, début 19e, où au départ la base c'est dans un quartier populaire de Paris, la création d'une société de consommation, enfin d'une coopérative, enfin une association de consommation. Qui progressivement a ajouté à cette activité donc d'achat mutualisé des activités qui sont beaucoup plus du registre de l'éducatif et du culturel, qui sont un patronage laïque pour les enfants, un orchestre de cuivre qui va les accompagner dans les manifestations, une compagnie de théâtre, et peu à peu s'agrège une université populaire et puis une société de secours mutuel, et donc à partir d'un objet très économique, s'agrège ce type de projets, d'activités qui sont beaucoup plus liés maintenant à ce qu'on appelle le champ de l'éducation populaire. Et il y a plein d'autres exemples. Donc là, j'ai donné un exemple plutôt on part de la défense de nos conditions matérielles d'existence et puis on y associe finalement une dimension culturelle. Mais quand on regarde l'histoire de l'éducation populaire, on trouve aussi des initiatives qui sont beaucoup plus au départ ancrées dans l'éducatif et dans la culture. Les universités populaires ou la bourse du travail, etc., et qui après associent cette dimension économique comme la perception que c'est vraiment indissociable, ça fait partie, c'est les deux facettes qui constituent l'ensemble comment s'émanciper aussi ensemble, comment transformer aussi le monde dans lequel on vit.
Alors d'aujourd'hui, quelles sont les causes de l'éloignement entre ESS et éducation populaire ?
Ce qui s'est passé, c'est que courant 19e siècle, début 20e, en fait, il y a eu une législation progressive, une institutionnalisation des structures, des mouvements. Donc en 1884, il y a eu la loi Waldeck-Rousseau sur la liberté des syndicats, donc qui a finalement cantonné les syndicats à leur activité de défense des droits des travailleurs en les empêchant d'aller surtout voler de gestion d'activités économiques. Donc les syndicats se sont développés, même si maintenant, il y a des petits rapprochements avec l'éducation populaire. Mais donc les syndicats se sont développés de leur côté et puis il y a eu des lois portant sur la coopération, la loi 1901 sur les associations, la charte de la mutualité, etc., qui ont fait que ces structures en fait se sont cantonnées aussi à leur mission propre. Donc l'économie sociale, parce qu'on ne parlait pas à l'époque encore d'économie solidaire, mais l'économie sociale s'est développée, donc c'était la mise en œuvre d'activités économiques à but non lucratif dans des objectifs de solidarité. Et puis, toute la dimension culturelle, éducative, etc., a été laissée au champ d'associations donc dites d'éducation populaire, donc à l'époque plutôt de grosses fédérations d'éducation populaire, qui étaient chargées de la mise en œuvre d'activités culturelles, de l'organisation des loisirs, des vacances. Donc c'est finalement, alors bon, est-ce que l'État est seul responsable de cette différenciation des mouvements ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça y a beaucoup contribué.
Et alors justement, quels sont aujourd'hui les points de croisement ? Est-ce que vous pouvez citer des exemples inspirants pour les défis sociaux présents ?
Donc les points de croisement, en fait, c'est des initiatives. Enfin, c'est quand l'éducation populaire se dit que finalement cette agir économique doit être intégré à leur pratique, parce que finalement l'émancipation économique est un vecteur d'émancipation tout court. Donc il faut prendre ça en compte. Donc il y a un certain nombre de structures d'éducation populaire qui sont clairement sur ce volet-là. Je pense au MRJC, par exemple, aux résidences Habitat Jeunes. On se dit, l'habitat, en fait, c'est au cœur de la vie d'un jeune aujourd'hui. Et s'il n'a pas accès à un habitat stable, ce sera compliqué pour lui. Donc, comment on fait en sorte que l'économie ne soit pas une forme de tabou sur lequel on ne touche pas parce qu'on n'est que sur le volet éducatif-culturel. Comment on réintègre ça vraiment au cœur, en fait, des préoccupations. Donc, des structures qui font d'éducation populaire qui vont sur ce terrain-là. Il y a un certain nombre de structures d'éducation populaire qui aussi choisissent des statuts qui sont vraiment plus ciblés ESS, des statuts coopératifs. Enfin il y a eu un certain nombre de structures, de scopes d'éducation populaire. Donc l'éducation populaire qui à un moment fait le choix aussi, et c'est pas sans risque, d'aller se tourner vers des activités marchandes. Ça pose aussi des questions. Et puis il y a un certain nombre aussi d'acteurs de l'éducation populaire qui font partie de grosses structures de l'ESS, comme l'ESPER, qui est l'économie sociale au service de l'école de la République. Des structures d'éducation populaire qui font partie des CRES. Donc l'idée, c'est d'allier les deux. Et puis, donc ça, c'est vraiment, là, c'était plutôt, des exemples qui montrent que l'éducation populaire s'empare quand même de ces questions, reste pas étrangère à ces questions d'ESS. Et de l'autre côté, en fait, c'est comment est-ce que les structures d'ESS aussi intègrent dans leurs projets politiques, dans la façon dont elles travaillent sur les territoires, la façon dont elles s'organisent en interne aussi des structures, c'est cette dimension d'éducation populaire. Donc j'ai tout un tas d'exemples donc très locaux, parce que c'est soit des exemples sur lesquels j'ai travaillé dans la recherche ou par ailleurs dans lesquels je suis engagée à titre plus personnel, mais je peux citer une petite association d'implantation sur un territoire quartier politique de la ville à Rennes, qui est clairement au cœur de son activité, c'est une régie de quartier, donc vocation très économique. Et en même temps, elle a développé tout un tas de, d'actions avec donc les premières concernées, les habitants, d'accompagnement de leurs projets politiques, de soutien à leur démarche et d'écoute et de libération de la parole qui s'apparentent tout à fait des actions d'éducation populaire. Et j'en ai plein d'autres, je ne sais pas jusqu'où je peux aller, mais en tout cas, voilà, se dire que, en fait, il y a des défis aujourd'hui, des défis politiques, des défis en lien aussi avec la démocratie. Enfin, voilà, et je trouve que l'éducation populaire, elle permet de remettre ces enjeux démocratiques au centre des débats. Et donc, c'est bien que les structures de l'ESS aussi s'emparent de ça. Donc, et puis, des enjeux de solidarité, des enjeux écologiques aussi. Oui, j'ai pas précisé, mais enfin, autour de ces questions des transitions, c'est un peu fondamental que les structures de l'ESS et l'éducation populaire travaillent ensemble, en fait. Parce que, je ne réduis pas du tout l'éducation populaire à des outils, parce que ce serait vraiment complètement incohérent par rapport à tout ce que je défends. Mais voilà, toutes les méthodes, tout ce qui inspire l'éducation populaire depuis des décennies, si on peut mettre en fait aussi tout ça, en plus du projet politique, bien sûr, mais voilà, au service de ces grands questionnements de société, que portent les acteurs de l'ESS, mais sans forcément maîtriser tout ça, c'est pas leur cœur de compétences. Donc voilà, comment on articule les deux pour que ça fasse un ensemble assez réussi, c'est un enjeu.
On comprend qu'il y a encore de la vivacité dans l'éducation populaire. Comment aujourd'hui redynamiser la collaboration entre l'ESS et les mouvements d'éducation populaire?
Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de projets. Enfin, déjà, faire ensemble, je pense que c'est redynamiser cette coopération. C'est donc travailler ensemble sur des projets qui permettent aussi, ce que je ne l'ai pas précisé, mais de déconstruire certaines formes des visions des acteurs de l'éduc-pop vis-à-vis de l'ESS et vice-versa, voire même des préjugés. Donc, quand on travaille ensemble sur des projets très concret au service d'un territoire, d'habitants, etc., évidemment, ça sert à déconstruire. Et il y a des projets comme sur lesquels j'ai travaillé en recherche sur les coopératives de jeunes, coopératives de jeunes majeurs ou de jeunes mineurs, où là, vraiment, l'idée, c'est de faire travailler ensemble acteurs de l'ESS, donc type coopérative d'activité et d'emploi, en Bretagne, Pôle ESS, et puis des acteurs de l'éducation populaire. Travailler ensemble, ou même ce que développe le réseau Piment aussi, autour de l'accompagnement d'initiatives de jeunes, ça va dans ce sens-là, parce que ça fait travailler ensemble des acteurs. Un autre facteur, c'est mieux se connaître, et mieux se connaître passe aussi par la formation. Donc moi, je milite et j'essaie d'agir à ma humble échelle le fait qu'on doive intégrer dans les formations à l'ESS, un niveau master ou autre, des cours, des enseignements sur l'éducation populaire, parce que en fait, il y a plein de professionnels de l'ESS qui ne savent pas ce que c'est que l'éducation populaire, ou en tout cas, on a une vague idée, mais pas forcément très, très poussée. Donc, formons les futurs professionnels de l'ESS à l'éducation populaire et vice-versa. Moi, ça, c'est ce que je fais dans mon métier de tous les jours. Formons les futurs professionnels de l'éducation populaire à je forme dans la filière universitaire des animateurs et des animatrices socioculturelles. Évidemment, l'idée, c'est de leur enseigner ce qu'est l'économie sociale et solidaire, parce qu'en fait, quand on est animateur et animatrice et qu'on se cantonne pas à la mise en place d'activités récréationnelles, l'idée, c'est de faire travailler en partenariat avec des initiatives de l'ESS sur le territoire, hyper inspirant, des ateliers d'autoréparation de vélos, des recycleries, des jardins partagés. Enfin, il y a une vivacité, il y a un terreau très fort d'initiatives de l'ESS, mais si les animateurs et les acteurs de l'éducation populaire ne sont pas au courant que ça existe, il faut faire le point de rencontre et la formation me semble évidente. Comment les réconcilier? Je pense que l'État, autant je disais que l'État, il avait eu un rôle la séparation de ces mouvements au cours du XXe siècle, il a aussi un rôle à jouer dans le fait que aussi les structures de l'éducation populaire et les structures de l'ESS retrouvent un peu leur âme, parce qu'on entend parfois les acteurs de l'ESS dire « Non, mais l'éducation populaire, ils sont vraiment rentrés dans un marché du socio-éducatif, voilà, c'est plus possible. » Et puis, les acteurs de l'éducation populaire, ils regardent « Non, mais t'as vu dans l'ESS, toutes ces grosses structures qui sont complètement, finalement, presque à coquiner avec le capitalisme, en tout cas éloignées de leur valeurs fondatrices, etc. » L'État, il a un rôle à jouer. L'État, il a un rôle, il doit soutenir en fait les initiatives de SS qui ont des vrais projets politiques et pas soutenir, c'est une forme de capitalisme à visage humain. Soutenons les initiatives aussi. Mettons en place des politiques publiques transversales qui n'est pas en silo en fait, parce que l'ESS et l'éducation populaire, c'est partout, c'est tout dans tous les secteurs d'activité, l'environnement, la santé, l'éducation, la culture, etc. Mais seulement tout est traité à l'échelle gouvernementale comme à l'échelle des collectivités territoriales par des services, des ministères, etc. Donc aussi une façon de réconcilier, c'est une façon de décloisonner tout ça.
Merci beaucoup Sandrine Rouspabé. Alors, un livre, un film ou un podcast, est-ce que vous auriez une recommandation pour nos auditeurs pour bâtir un futur solidaire ou un guide pour s'aventurer vers l'avenir ?
Alors un guide, je ne sais pas, c'est un peu prétentieux, c'est dire waouh, si j'avais un guide pour vraiment transformer le monde, qu'est-ce que... moi, pour rester dans le sujet de l'éducation populaire, il y a un livre qui m'a beaucoup inspirée, qui est un livre d'Adeline de Lepinay, qui est une actrice de l'éducation populaire, comme un manuel en fait, qui s'appelle Organisons-nous, et qui pose vraiment les grands principes de l'organisation collective, de l'éducation populaire. Et voilà, je pense que c'est un livre... qu'il ne faut pas manquer de lire si on a envie un peu d'être acteur dans cette transformation sociale.
Merci à Sandrine Rouspabé pour ses perspectives éclairantes sur l'éducation populaire au centre du projet politique de l'ESS. Nous espérons que cette discussion a été enrichissante pour nos auditeurs. Restez à l'écoute pour de futurs épisodes sur des sujets passionnants et merci de nous avoir rejoints.